Oeil. À la une, les sombres prédictions du MEDEF balayées par Moeté Brotherson qui n'y croit pas. La stratégie de décolonisation du Tavigny pour forcer l'État à discuter. Et puis de la musique pour terminer. Le journal de la rédaction sur Radio Haïti à l'FM est présenté par Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Est-ce qu'une crise pire qu'en 2008 arrive?
Et Steve Amblin assure que oui, mais Moeté Brotherson n'y croit pas. Une crise pire qu'en 2008, c'est la sombre prédiction du président du MEDEF. Il avait expliqué sur Radio 1 qu'une récession mondiale était à prévoir avec la guerre commerciale lancée par Trump. Et cette crise risque de balayer le tourisme et l'économie polynésienne. Il réclamait donc des mesures préventives urgentes. Interrogé sur le sujet ce week-end, Moeté Brotherson expliquait ne pas avoir eu de contact avec le patron du MEDEF à propos de ce présage. Et le chef du gouvernement ne nie pas le risque de crise, mais est tout de même moins inquiet.
Et je sais que ça marotte depuis un certain temps. La première fois que je l'ai rencontré, il me parlait déjà de cette crise monumentale qui allait se profiler. On est potentiellement dans une crise, mais je pense que c'est un peu comme le corps humain. Il y a une forme d'homéostasie qui s'opère au plan économique mondial. Les choses vont se réguler d'elles-mêmes.
Voilà, une certaine homéostasie, donc, c'est-à-dire une régulation naturelle. Effectivement, ce n'est pas la première fois que Steve Amblin parle d'une future crise mondiale grave. Lui-même expliquait à notre antenne avoir prévenu le gouvernement depuis au moins un an pour le président du MEDEF. Les indicateurs mondiaux et certains indicateurs locaux confirment cette crise à venir et ils demandent des mesures de protection des entreprises et de l'emploi pour éviter des licenciements massifs, la mise en place de nouveaux amortisseurs sociaux pour soutenir la consommation ou encore la création et de manière urgente d'une cellule de crise, une cellule dont Moeté Brotherson ne voit pas vraiment l'intérêt.
Je ne vois pas trop de quoi on pourrait discuter parce que la plupart des choses dont on pourrait discuter ne sont pas sont des choses exogènes. Voilà, je ne vois pas trop de quoi on pourrait discuter. Nous avons, et on l'a dit, quand on a examiné le collectif, ça nous a d'ailleurs été reproché, pourquoi vous n'utilisez pas l'intégralité des 18 milliards? On a mis 5 milliards de côté, justement, au cas où il se passe des choses imprévues. On n'a pas voulu utiliser tout le disponible pour le collectif. Après, est-ce qu'il faut être encore plus prudent que ça? Est-ce qu'il faut être catastrophiste? C'est pas ma nature.
Moeté Brotherson s'oppose aussi à une autre idée de Steve Amblin. Non, le gouvernement ne tape pas sur les entreprises depuis le début de la mandature. Le patron du MEDEF dénonçait les dernières orientations fiscales, les coups de rabot sur la défisque locale, le colloque sur la vie chère ou encore les contraintes de la loi anti-plastique. Pas question de la suspendre, explique le chef du gouvernement. Je crois en la capacité des entreprises à s'adapter. Certaines le font déjà très bien.
Et on reste avec le Tavigny pour parler décolonisation cette fois.
Oui, souvenez-vous, une délibération a été adoptée en décembre dernier, donnant le droit à Anthony Géros d'attaquer l'État en justice sur ce sujet. Une délibération déférée par le Haut Commissariat devant le Conseil d'État et qui a toutes les chances d'être annulée, mais ce n'est pas grave. Le président de l'Assemblée, Anthony Géros, a écrit il y a quelques semaines au président de la République. Il lui demande officiellement d'ouvrir le dialogue de décolonisation conformément aux résolutions de l'ONU. Et sans réponse officielle de Macron, Anthony Géros compte bien déposer le 21 mai un recours au tribunal administratif, comme l'explique son directeur de cabinet, Richard Touriava.
Il faut savoir que Tony Géros a fait la demande de préalable auprès de Macron pour engager le dialogue de décolonisation conformément aux résolutions de l'ONU. Il a 2 mois pour le faire et puis on suivra la procédure française, nationale, c'est-à-dire on attaquera la décision implicite de rejet s'il n'y en a pas et on ira jusqu'au Conseil d'État.
Qu'importe donc que la délibération votée en décembre soit annulée, des élus bleu ciel ont fait la même démarche en envoyant un courrier aux chefs d'État en leur nom propre. Sans réponse, tous devraient donc déposer leur recours le 21 mai prochain avec l'aide de leur avocat, Maître Thibault Millet. Une procédure destinée surtout à épuiser les voies de recours nationales. Et cette date n'a pas été choisie au hasard. Elle correspond aussi à l'ouverture du séminaire régional du comité spécial des 24 de l'ONU. Cette année, ça se passe à Dili, dans la capitale du Timor oriental. Le parti mise sur la pression régionale au sein de l'ONU, mais aussi au sein d'une nouvelle entité qui doit être créée en août, la PIPA pour Pacific Island Parliament Association, sorte de pendant parlementaire au Forum des îles du Pacifique.
En fait, on s'aperçoit qu'il y a un changement aujourd'hui un peu dans les modes de gouvernance et que les exécutifs ne sont plus en solo, j'ai envie de dire, à travers le Forum, et que maintenant les différents États du Pacifique, notamment, aiment voir à travers leur Parlement, leur Assemblée législative, la voie directe de la population reflétée aussi dans ces décisions, mais sans aller influer le forum, mais de créer le leur. Et ça, c'est un phénomène que l'on a observé depuis 2 ans.
Voilà, Richard Touriava, ancien sénateur, directeur du cabinet de Géraud, c'est spécialiste des questions juridiques pour le Tavigny. Il explique aussi au passage que l'avant-projet de constitution de Maori Nui, présenté ce week-end, sera aussi discuté avec les partenaires régionaux.
Vous écoutez le journal de la rédaction, 7h05 et on part à l'Assemblée nationale. La réforme du mode de scrutin pour les municipales a été adoptée dans la nuit à Paris.
Et la parité, ce sera désormais aussi obligatoire dans les petites communes de moins de 1000 habitants, mais pas en Polynésie, du moins pas encore. La réforme n'a pas été étendue aux Fénois, mais pourrait l'être. Une quinzaine de communes en Polynésie pourraient être du coup concernées. Le syndicat de promotion des communes a d'ailleurs été consulté sur ce projet et s'est dit défavorable. La constitution des listes est déjà difficile. Dans les petites îles, c'est encore plus compliqué. Dans les communes associées, une originalité polynésienne, et si la réforme était appliquée, ce serait encore pire.
Dans l'actualité, Cédric Mercadal veut croire qu'une nouvelle dynamique est lancée sur les conséquences des essais nucléaires.
Après son déplacement éclair à Paris la semaine dernière, le ministre de la Santé est revenu sur la réunion de la commission de suivi de la loi Morin, une réunion qui n'avait plus eu lieu depuis 4 ans. Et selon lui, Paris est désormais à l'écoute et prêt à une réelle implication sur le dossier. Un changement de position en grande partie dû à la commission d'enquête parlementaire sur les essais nucléaire, lancée par la députée Mériana Reda-Arbelot.
C'est un mouvement qui est initié. Et là, on a pris acte de beaucoup de choses lors de cette commission. Le fait qu'il y ait la commission d'enquête qui a été enclenchée a fait que tout s'est mis en mouvement et l'État a été volontaire pour se mettre en mouvement, lui aussi de son côté. Mais je pense que l'activité de la commission d'enquête a porté ses fruits.
Et Mercadal, que vous venez d'entendre, explique que plusieurs promesses ont été faites. L'extension d'ici 2026 de la liste des maladies radio-induites. L'État est d'accord, mais à condition d'avoir des fondements clairs et scientifiques. Pas de problème, l'ONU est justement en train de terminer une étude sur les maladies radio-induites. Le pays pourra donc s'appuyer sur ses conclusions pour défendre l'extension. Et l'État est également d'accord pour une évaluation conjointe des sommes à rembourser à la CPS. Pour la prise en charge des maladies, il faudra donc trouver un chiffre entre 3 milliards et demi. L'estimation de l'État est plutôt 80 à 100 milliards, l'estimation de Patrick Galnon, le président du conseil d'administration de la CPS.
Aujourd'hui, 60 000 personnes ont cotisé, 60 000 travailleurs ont cotisé pour 80% de ces frais maladie qui ont été payés par la collectivité. Ce qui a été reconnu avec l'État, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'une décision qui implique 60 millions de personnes de l'usage de l'arme nucléaire incombe en dette à 60 000 personnes, c'est la double peine et ce n'est pas normal. L'État est parfaitement d'accord. Le nouveau ministre de la Santé a pris acte et a dit qu'il ferait une nouvelle évaluation conjointe avec le pays pour arriver à un résultat et une évaluation avec un tiers qui est un grand centre de cancer de métropole.
Et des deux côtés, État et pays, on garde un œil sur la commission d'enquête parlementaire. La restitution est attendue en juin et les autorités regarderont sûrement les conclusions des parlementaires sur une éventuelle révision de la loi Morin et leur avis sur le critère dit du mili sévère. Une question centrale, précise Cédric Mercadal. Prochain rendez-vous de la commission de suivi de la loi Morin, ce sera en octobre à Papeete. Une date et un lieu qui montrent aussi pour le ministre de la Santé la bonne volonté de l'État sur le sujet.
7h08 dans le journal et ses informations en bref concernant notamment le champion à Paër.
Cette enseigne du groupe Van pourra bien rester ouverte. L'autorité polynésienne de la concurrence a vu son autorisation d'ouverture du supermarché confirmée par la cour administrative d'appel de Paris. La première décision d'autorisation avait été attaquée et annulée pour manque de précision. L'APC avait revu sa copie et autorisé à nouveau cette ouverture et le magasin avait ouvert en juillet de l'année dernière. Un nouveau recours des concurrents du magasin avait été déposé mais finalement les juges d'appel ont estimé satisfaisantes les motivations de l'autorité de la concurrence et considèrent que les concurrents du groupe Van ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'autorisation d'ouverture.
Et puis on parle aussi justice, Lucie, avec ses 8 prévenus au tribunal pour 4 kilos d'ice.
C'est au cours de plusieurs voyages aux États-Unis qu'ils avaient acquis près de 4 kilos d'ice, donc pour les vendre en Polynésie, et c'est à l'aéroport que l'une d'entre eux s'est faite prendre. Ils étaient entendus hier au tribunal. Certains des mis en cause sont sans emploi, mais le boss à la tête du réseau est lui un chef d'entreprise qui marche très bien, une société de carrosserie et de peinture grâce à laquelle il gagne 2 à 3 millions par mois. Alors pourquoi trafiquer de l'ice avec de si bons revenus? Je me pose toujours la question, a répondu l'intéressé au juge. Des peines allant de 2 ans à 9 ans ferme ont été requises. Décision aujourd'hui.
Et puis on termine en musique.
Avec ce spectacle à la maison James Norman Hall, c'est le groupe Bel Canto Tahiti qui s'est inspiré de l'épopée de la Bounty pour réunir plusieurs chants, chants patriotiques, chants de marins, œuvres de Handel, de Mozart, des reprises du répertoire tahitien, la bande originale du film. Ce sera les 25 et 26 avril à la maison James Norman Hall de Harway. Vous pouvez retrouver les détails sur leur page Facebook. Voilà, c'est la fin de ce journal. À noter qu'Edouard Fritsch sera l'invité de la rédaction ce matin. Le président du Tapoura viendra reparler du débat sur la vie chère et ses échanges tendus avec le MEDEF. Il s'exprimera aussi sur la gestion d'ATN, sur certains projets d'aménagement lancés par le gouvernement et sur l'ébauche de constitution de Mao Inoui présentée ce week-end. Ce sera en direct sur nos antennes et la page Facebook de Radio 1 à 11h30 et prochain rendez-vous à 7h30 aussi pour la revue de presse.
La revue de presse, effectivement. Bonjour Lucie et à tout à l'heure.